Bon, bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour finir notre message sur les trois C. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ça fait 2 ans que j'ai donné le début. Les trois C. Le premier C, c'est choix. Deuxième. Troisième. Ah, bon. Bravo. Maintenant, il y a un problème. Peut-être quelques-uns ici ce matin qui n'étaient pas là au début, ça fait 2 ans. Je vais passer en revue un peu ce qu'on a donné cette fois-là. Pas beaucoup de détails. Je vais finir la balance de notre étude. Si vous voulez avoir une copie de cette étude, allez sur l'Internet. On a laissé la copie ici et vous pouvez prendre les versets puis lire les versets avec. J'ai pas beaucoup de temps de lire trop les versets. Je vais faire le point, 3C. Et quand je suis 6 pieds sur terre, j'espère que vous allez rappeler de tout ce qu'on a dit sur les 3C. Bien. Donc, voilà. J'ai le piton ici, je pense. La loi de la vie, la loi, c'est. Choix, conséquence, caractère. Vous voyez bien que caractère, c'est un peu autre choix et conséquence. C'est très important, le caractère, dans tout ça. Donc, la présentation. Je passe ici assez vite. Vous pouvez lire ça. J'ai pas le temps d'en parler beaucoup. Mais dans le voyage sur cette terre, il y a des problèmes, des difficultés, et des échecs, et des tentations. Mais à travers de tout ça, vous pouvez appliquer la loi des 3C et réussir la vie. Et si la vie n'est pas vie pour le Seigneur et pour aider les autres dans la vie, c'est un cœur de poisson. Ça vaut pas la peine de vivre, quant à moi. Bien, c'est de former notre caractère que Dieu nous a laissé sur la terre et d'être semblable à Jésus-Christ. On a parlé des exemples dans la Bible. J'en ai des exemples dans la Bible, mais dans la vie aussi, dans le monde. Parce que c'est une loi qui est universelle. Foster, c'est Stephen Foster, un exemple. C'est un homme qui était vraiment doué pour écrire la belle musique. Ça fait quelques années déjà mort. Mais il a écrit la Beautiful Dreamer et d'autres cantiques que j'aime beaucoup. Mais il a vécu dans la pauvreté, était sous la plupart du temps. Il a pas réussi son mariage, il est mort à 33 ans. Il est très doué, très intelligent, mais il n'avait pas de caractère, c'est ça. Vous voyez l'importance de ça. Bon, message divin urgent et utile et simple, direct. Je ne cherche pas de vous donner trop, mais de vraiment expliquer les 3 C. Nous avons ici les affirmations de notre, c'est Joseph, provocation, Samson, déviation, c'est David, et rétrospection, c'est Salomon, le roi. Mais ça, c'est les 4 de la Bible, mais il y en a encore dans la vie, les illustrations quand vous vous donnez, donc. Donc, ici, trois mots-clés, inséparables. Quand vous touchez un, vous touchez tous les trois. On ne peut pas les séparer, c'est soudé ensemble. Invariable, inaltérable, impérissable, comme le roc de Gibraltar. Et c'est aussi un autre point irrévocable, irréversible, définitif et immuable. On ne peut pas modifier, changer ou vouloir transformer ça. C'est une loi coulée dans le ciment. Et c'est bon pour tout le monde. Vous et moi, chacun de nous. Si vous êtes sauvé ou non, peu importe. Vous êtes sous cette loi des 3 C. Donc, on ne peut pas le changer, mais on n'a jamais un mauvais choix avec les bonnes conséquences. Et on voit ça à travers les Écritures. Donc, l'affirmation, le premier point, c'est ce caractère Joseph. Joseph en Égypte, caractère admirable et remarquable, qui a dirigé sa vie à cause de son caractère. Ça, c'est le point premier, troisième maillon. Type de Christ. Pas de faute, pas de faiblesse, pas de fourberie. qui est marqué dans la Bible. Sans doute, il est né dans le péché, il est né dans la chair comme nous. Il y en avait, mais il n'est pas nommé, parce que c'est un type de Jésus-Christ, un modèle à suivre. Donc, les choses ici vraiment remarquables à son sujet. Mais ici, on voit que le caractère est cardinal, plus que la compétence ou capacité. Rappelez-vous de bien cette phrase-là. C'est caractère qui est important. Je peux avoir la compétence, peut-être une certaine capacité, mais si pas le caractère, ça sert à rien. Donc, on parle de son caractère très moral. Maintenant, voici cette idée qui a été tentée par la femme de Potiphar. Le choix qui découle de son caractère. Il a décidé d'avance, il avait une forte conviction, de vouloir suivre le Seigneur et faire sa volonté. Donc, vous avez le verset de la Bible. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Prendre la fuite. La femme dit, viens coucher avec moi, là. Oh, et elle voulait l'avoir, ça fait longtemps. Ça, c'est le rôle de la femme, en général, c'est de séduire. Et... c'est vrai, la Bible dit, la femme a été séduite. Adam a péché avec une pleine connaissance. C'est pire encore. Mais la femme l'a servi. Mais cette femme voulait la voir. Viens coucher avec moi. Mon mari est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, oh, madame, calme-toi, on va s'asseoir, on va prendre une tasse de thé, on va discuter de l'affaire. Il dit, non! Il se sauve. Mais rappelez-vous de cette photo, c'est excellent. Il faut fuir, des fois, les difficultés dans la vie. Il dit, en 2 Timothée 2, 22, en fuir la passion de la jeunesse, en Pierre, en fuit la corruption du monde, et en Timothée, en fuit le poison de richesse. Des choses à fuir dans la vie chrétienne. Donc, lui a décidé d'avance de suivre le Seigneur. Il a dit ici, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai contre Dieu? Ça veut dire de coucher avec la femme. Oh, des fois, c'est bon de rappeler de ça. OK. Ici, on voit que lui a eu des conséquences heureuses, bénéfiques, parce que il était dans la volonté de Dieu. Il a prospéré, il est devenu grand en Égypte, deuxième roi. OK, on a tout fait, tout ça. Maintenant, on commence avec le deuxième sujet sur la provocation. C'est le corps de Samson. Les conséquences graves et fatales résultent de la nature charnelle chez le croyant. Juge 14, 15, 16. Faut lire ça quand vous avez le temps. Cet homme ici, on le voit ici en prison, à Gaza, les yeux ont été crevés, il tourne la meule, et était prisonnier des Philistins. Mais ça, c'est un chrétien charnel. Je crois qu'il va aller au, il va être au ciel avec nous, parce qu'il était un serviteur de Dieu. Il était appelé serviteur de Dieu, mais sa vie était plus ou moins vécue avec sa propre vie en vue. Là. Il voulait faire sa propre volonté. Donc, cet homme n'a pas été obéissant à la parole de Dieu. Maintenant, il y a un homme dans les États-Unis, l'histoire des États-Unis, lieutenant colonel Custard, et on appelle son last stand, Little Bighorn, dans le juin 1876. Lui était envoyé parce que les Sioux et une autre race d'Indiens étaient là pour vraiment faire face à l'armée américaine. Il avait l'ordre d'attendre avant de faire la guerre, d'aller contre les Indiens. Mais lui, il a vu Sitting Bull et d'autres leaders, puis il saute, il va à la charge. Puis si vous avez une idée dans l'histoire de ce que c'est, on le voit tout seul à la fin, entouré de quelques soldats, mais l'armée a été massacrée. Il a perdu sa vie. Il n'a pas obéi, il n'a pas attendu, il a fait ce qu'il pensait qu'il va être une grande victoire pour lui, mais c'était un échec total. Désobéissance, c'est ça qui arrive souvent. Ça, c'est les conséquences. Il y avait un mauvais choix, ici, le mauvais choix, mais on touche maintenant les conséquences. À cause de son, quoi? Mauvais caractère. Lis ensemble. Et déshonore ses parents. Prendre vos femmes une philistine. Le croyant avec l'incroyant? Pas possible. C'est pas marqué dans la Bible. Le croyant est toujours avec un autre croyant. Et vous, les jeunes, des fois, on cherche de, dans le mariage, de choisir quelqu'un d'autre goût, mais le premier point à faire, c'est est-ce que la personne connaît le Seigneur? Est-ce que nous sommes tous les deux d'accord sur l'idée de faire la volonté de Dieu? Maintenant, il choisit une femme étrangère. C'était défendu dans la Bible. Il l'a fait quand même. Donc, il déshonore ses parents, mais il n'écoute pas le conseil des parents. En passant, vous les jeunes, et même les personnes plus âgées, quand ça arrive au mariage, parlez avec vos parents. Ils vous anticipent. Ils vous connaissent. Et ils vont être capables de vous conseiller pour voir si l'autre personne va être bien avec vous, oui ou non. C'est pas l'idée, je tombe en amour avec une autre personne, je me marie, mais c'est comme ça, ça c'est l'idée américaine, romantique, c'est pas vrai. Faut être prudent avec cette idée du mariage, c'est pour la vie. Mais le conseil des parents est vraiment nécessaire dans ce cas, le mariage. Il y a une mauvaise relation ici. Elle est donnée à un autre, brûlée avec son père, par ses proches. Je vois ici qu'il y a une douzième image en arrière. Je sais pas qu'est-ce que c'est qui arrive. Il visite la prostituée à Gaza. Ça, c'est la douzième femme dans sa vie. Il évite l'embuscade parce qu'il voulait s'emparer de lui, le Philistin. Il enlève les portes de Gaza. Ensuite, il y a Delila. Delila tourmente Samson pour son secret. Lui coupe les cheveux. On va le voir tantôt. Il ne devrait pas couper les cheveux. Et le livre aux Philistins. Les yeux crevés, chaîne des reins, il tourne la moule en prison. Et ça, c'est une image de quelqu'un qui est un esclave du péché et qui est aveugle. Ça, c'est nous, avant d'être sauvés par la grâce de Dieu, de connaître l'amour de Dieu. Il meurt dans le temple de Dagon. Il finit là, en prison. Mais il va dans le temple de Dagon, et on va le voir tantôt. 3 000 Philistins qui sont morts, c'est une fin honteuse pour lui. Donc, il y a une rencontre avec le Seigneur, nous, ça va être une fin peut-être honteuse pour quelques-uns de nous parce qu'on n'a pas fait la volonté de Dieu. Faut se rappeler de ça. Maintenant, le troisième maillon, on parle de son caractère naturel. Il était charnel, était barbare, avait un esprit de vengeance. Quand vous lisez l'histoire, il cherche toujours de se venger sur les Philistins. C'était permis de la part de Dieu. Dieu a pris cet esprit de vengeance en lui pour punir les Philistins. Mais c'est son choix à lui. Mais il avait un caractère naturel, n'était pas selon la volonté de Dieu. Il était destiné à jeûner sur elle pendant 20 ans, préoccupé avec sa propre vie. Ça, c'est remarquable. Dieu l'a choisi pour qu'il juge le peuple d'Israël, puis il était occupé seulement avec ses 3 femmes de sa propre vie à lui. Donc, Nazaréen, séparé, consacré, interdit pour une telle personne, fruit de la vigne, coupé cheveux et touché à la mort. Donc, ça, c'est juste ce que la Bible enseigne. Mais il avait raison de ne pas laisser les autres couper ses cheveux. Mais finalement, ils l'ont fait parce que Delila l'a traduit. Trahi. Donc, force extraordinaire. Il tue un lion. 1000 Philistins avec un mâchoire d'un homme. Il enlève les portes de Gaza. C'est un homme extrêmement remarquablement fort pour faire la volonté de Dieu et servir Dieu. Mais il a utilisé ça simplement pour se délivrer des problèmes de la vie. Il était rebelle aux parents, la parole de Dieu et le bon conseil. Donc, on voit la fin de cet homme qui a fait des tas de choix. Et sexualité, et un peu peut aller ajouter drogue et alcool, domine sa vie. C'est la bête noire dans l'Amérique du Nord aujourd'hui. Dans les années 1960, il y avait la libération sexuelle. Ça a couru partout. Et il y avait à l'époque, je m'en rappelle, dans le magazine McLean, il y avait des organisations, ils avaient des communautés qui vivaient tout seuls dans un bâtisse, puis tout le monde était ensemble, hommes, femmes, enfants. Quelques-uns sont allés travailler, ils ont mis l'argent. Mais si l'homme voulait coucher avec la femme d'un autre, c'est correct. Si la femme voulait coucher avec l'autre homme, c'est bien. Les enfants, tout ensemble, bien nourris, éduqués, mais il n'y avait pas d'ordre. Mais il n'y avait pas, pour dire, une morale correcte selon la Bible. Et la sexualité, c'est un problème majeur dans notre société aujourd'hui. À Chicoutimi, dernièrement, j'ai fait un sondage avec la jeunesse pour savoir comment faire ou quoi faire pour les aider. Ils ont découvert dans qu'est-ce qu'on appelle ça, le sondage, que beaucoup des jeunes pensaient que c'était correct d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, dans une église évangélique. Vous voyez comment cela est dans notre être. Pour dire, premièrement, les choix néfastes. Les trois Philistines, une par assez. Salomon avait 1000 femmes. 600 princesses et 300 concubines. Moi, j'ai la misère pour vivre avec une femme. J'ai eu une très bonne femme, une excellente femme. Mais lui, il en avait 1000. Je ne sais pas comment il a fait. Il y avait un jeune homme à Chibougamo que j'ai visité souvent dans le Nord. Et un homme qui a marié, il s'est marié avec un nom chrétien. Ça n'a pas bien été. Ça a bousé finalement un divorce. Il se marie encore avec une non-chrétienne. Même chose est arrivée. Vous savez qu'est-ce que c'est quand vous faites pas la volonté de Dieu? Ça marche pas bien d'éviter. Je dirais 9 cas sur 10, c'est toujours un échec quand on s'est marié avec les inconvertis. Il y a quelques cas exceptionnels, j'en ai connu un, où ça a bien été un très bon mariage. Mais c'est rare. Faut pas prier à Dieu de savoir si je me marie, oui ou non, avec un nom chrétien. C'est marqué dans la Bible. On sait d'avance, il faut se pas marier avec les inconvertis. Mais lui, il a pris 3 femmes étrangères et c'était sa chute. La Philistine de Timna, une étrangère, qu'est-ce qu'il a dit quand les parents disent, hey, fais pas ça. C'est pas selon la volonté de Dieu. C'est pas sage d'aller prendre une autre culture, une autre race et pas aimer les païens et prendre une femme de ce groupe-là. Les parents disent, c'est pas bien. Il dit quoi? Prends-la pour moi, car elle me plaît. Il faisait sa volonté, pas la volonté de Dieu. Ça continue, prostituée de Gaza, défendue par Dieu. Le monde accepte ça aujourd'hui, mais pour nous, c'est pas correct. C'est immoralité, indocilité, pas obéissant. Maintenant, immoralité, ensuite, le perfide dit là, qui trahit son mari pour l'argent, infidélité. C'est un mariage quand même. Faut être fidèle l'un à l'autre. Et si on arrive à Jésus-Christ, et un est converti puis l'autre n'est pas converti, faut garder le mariage intact et réaliser le mariage comme il le faut. C'est la volonté de Dieu. Donc, on le voit ici, dans le temple de Dagon, ici. Et voilà, le choix continuel qui cultive le caractère. Le choix continuel qui cultive le caractère. Maintenant, il faut réaliser que le caractère est très important ici. Il faut le cultiver. Mais quand je passe par les difficultés et que je n'obéis pas à la parole de Dieu, je fais ma volonté, il va y avoir des problèmes majeurs. Regarde ici, bien des naufragés, et j'ai un homme ici pour vous montrer qui a fait un naufrage dans la vie. Vous savez qui est-ce? C'est Pete Rose. C'est le meilleur joueur au baseball dans le baseball américain. Mais il a fait du gambling, était exclu du temple du renommé. Il est encore exclu parce qu'il a joué avec le gambling, c'était défendu. Lui, c'est pas le seul. Il y a d'autres qui ont fait choses pareilles. Ils ont même pas cultivé pour dire le caractère. Il y a Pete Rose qui a manqué. Qu'est-ce qu'on pense de Lance Armstrong? Vous savez qui est-ce? Il a gagné 7 fois le cyclage au monde. Ensuite, tout a été arraché parce qu'il a pris la drogue. Il a pris la drogue pour améliorer son côté physique. Je pourrais nommer un pile, Ben Johnson, rappelez-vous de lui? Il a gagné les Jeux Olympiques, drapeau autour de lui. Tout perdu. Lui aussi a protesté négatif pour la drogue. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de caractère ici. Il n'y a pas de l'idée de faire la volonté de Dieu. Et malgré les difficultés de suivre et accepter les choses qui arrivent. Mais c'est le choix continuel qui cultive le caractère. Regardez ici. Chaque fois que je dis non au mensonge, la drogue, le sexe, la violence, la boisson, la tricherie, la fraude. Chaque fois que je dis non, je suis en train de bâtir mon caractère. C'est brique par brique que je bâtis mon caractère. C'est pas dans un moment critique qui arrive, oh, je suis pris avec un dilemme, là, un problème, je dis, oh, qu'est-ce que je vais faire? Non, le caractère est formé à travers de notre vie. Chaque année, peut-être dans deux briques, et j'ai bâti mon caractère, et je deviens solide. Le caractère n'est pas commandé dans un moment critique, c'est forgé dans la reine des habitudes. Ça, c'est Dan Coates qui dit ça. Ça, c'est vraiment bien, n'est-ce pas? C'est en réussissant, en obéissant au Seigneur, que je réussis de vaincre les tentations. Mais chaque fois que je fais quelque chose qui est bien et continue de faire, je cultive et je bâtis mon caractère. Mon caractère dépend de quoi? Les choix que je fais. Les choix, les conséquences, caractère. Si quelqu'un ne marche pas bien, une faiblesse de caractère, il va faire des quelles sortes de choix? Des mauvais choix. Et quelles sortes de conséquences? Mauvaises conséquences. Est-ce que je me trompe en disant aujourd'hui, peut-être que je me trompe, mais le président des États-Unis, Trump, là, est-ce que c'est pas un exemple de ceci? Quoi? Mauvais choix? Mauvaises conséquences? À cause de quoi? Mauvais caractère, probablement. Il ne sait pas gouverner encore. Là. Il va apprendre, peut-être. En tout cas. Mais c'est très important de réaliser que quand je suis la Bible et je fais la volonté de Dieu, et je suis capable de résister, de fuir, ça m'échappe un moment. Lui, pas comme Samson n'a pas fui, il a fait le contraire. Il est resté avec ses problèmes. C'est cette idée de marcher sur les habitudes. Maintenant, déviation. Ça, c'est, vous savez qu'est-ce que c'est? Le cas de David avec Bathsheba. Défaillance inhabituelle. C'est pas une habitude chez David. David était vraiment un homme choisi de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est excellent. On dit ici que son caractère, homme selon mon cœur, héros exceptionnel dans les actes. En général, un homme spirituel, pieux, leader remarquable, il aura une place dans le millénium comme le prince. Il consulte l'Éternel, se met à sa volonté de Dieu, sauf dans l'affaire de Uri, puis la femme de Uri, et l'idée de dénombrer le peuple de Dieu n'était pas correct de faire chose pareille. David a fait des erreurs. Il était quand même courage, beaucoup de bravure, formidable. Il tue l'ours, le lion, Goliath, le géant, d'autres exploits. Je m'appelle que ma mère nous lisait les histoires de la Bible et j'étais vraiment enchanté avec cette idée de David qui s'en va vers Goliath. Ensuite, il le tue puis coupe la tête. Donc, on devrait être comme David, là, prêt d'aller au nom du Seigneur contre tout le mal ou les ennemis que nous avons. Il est un poète et musicien talentueux. Des psaumes, beaucoup de psaumes, étaient écrits par lui. Il organise la musique pour le temple. Le deuxième roi d'Israël est choisi par Dieu. Vaillant héros, fidèle. Un exemple, avant sa faute. Règne de 40 ans, 20 ans de triomphe où il a fait la volonté de Dieu et 20 ans de trouble. Après ça, cette affaire avec Bathsheba, ça n'a pas bien été. Donc, ça c'est le troisième royaume. Premièrement donc, choix. Comment la femme d'Uri. On parle de ce péché de David, hein? N'est-ce pas? Mais péché de Bathsheba aussi, là. Elle était consentante. L'idée de mettre tout le blâme sur David, c'est vrai, il est mal choisi, il est mal fait. Alors le Dieu, écoute, c'est pas la volonté de Dieu, je suis marié, on n'a pas le droit de faire ça. La femme aurait dû couper, mais non, elle était consentante, elle l'a fait avec lui. Donc, David avait déjà 6 femmes. Prendre un autre. On n'est pas comme ça, nous autres. Hein. On est tellement fin. Hein. On, une femme, on est contente avec elle, on ne pense jamais à un autre. Vous avez compris. Et moi, je suis comme vous autres aussi, là. Un moment de faiblesse, des années de tristesse. Est-ce que ça vaut la peine de ne pas écouter la voix du Seigneur? Il n'est pas fait comme Joseph, voilà. Maintenant, circonstance. Il flâne sur le toit de sa maison. Pas à sa place. Il aurait dû être à la tête de l'armée. L'armée est en train de combattre les Philistins. Le roi devrait être là avec le Seigneur pour combattre les ennemis de Dieu. Il n'était pas là. Quand vous flânez, quand vous n'avez rien à faire, souvent c'est la mal qui arrive. C'est très bien de t'occuper dans la vie avec les choses qui sont bonnes à faire. Donc, il complique la situation. Mensonge, manigance, meurtre. Pour cacher cela. Est-ce possible? Pas avec Dieu. Et tôt ou tard, tout ce qu'on a fait dans la vie va venir vers la surface et être exposé. Tôt ou tard. Si c'est pas sur la terre, ça va être au ciel. En tout cas, mais David pensait de cacher sa faute, de s'en échapper. Choix charnel, les fastes insensés selon la chair, le châtiment s'en vient. Galates 6-7, ça parle de s'aimer et de regretter. Donc, je peux choisir, mais Dieu fixe les conséquences. Le péché ne reste pas impuni. Ça, c'est une chose qu'il faut de bien apprendre dans la vie, que Dieu va corriger le péché chez le croyant. Il va certainement faire de quoi pour manifester sa colère contre le péché, même chez nous, les croyants. Donc, c'est vraiment important de savoir que tout ce que nous faisons, tôt ou tard, ça va venir à la lumière du jour. Donc, on va voir ici, je suis responsable de mes choix. Je récolte ce que je sème. Et quand on parle de Bill Clinton des États-Unis, qu'est-ce que c'est la première chose que vous pensez quand on parle de lui? Son affaire avec Monique, mais c'était avec 3 femmes au moins qui a eu des relations qui n'étaient pas correctes. Mais c'est un bon président, au point de vue de présider puis arriver à des affaires, mais au point de vue moral, non, c'était pas correct. ce qu'il a fait. Donc, c'est très important de réaliser que, je cherche mon dicton ici, il y a un dicton qui vraiment exprime bien cette affaire. Je pense que je vais l'avoir ici. Un dicton qui nous aide avec ça. Maintenant, la deuxième chose, c'est les conséquences. Voici mes dictons. Tes choix, je l'ai coupé d'une revue. Tu peux choisir tes choix. Ben, tu ne peux pas choisir les conséquences de tes choix. Une chose est certaine, c'est qu'après que tu les auras faits, ce seront eux qui te feront. N'est-ce pas vrai? Bien dit, hein? Tu peux choisir tes choix, mais tu ne peux pas choisir les conséquences de tes choix. Une chose certaine, c'est qu'après que tu les auras faits, ce seront eux qui te feront. Et c'est vraiment ça. Donc, les conséquences indiquent la gravité d'un péché sérieux, ce qu'il a fait. Souffrance interne, communion coupée avec Dieu, tourment, agonie, remords. Psaume 51, 30, et psaume 5, 51 et 32 parlent de ça. David était vraiment repentant, sincère dans sa repentance, et il a pleuré. Il était miséreux, il a perdu le contact avec Dieu. C'était vraiment terrible pour lui. Mais c'est ça qui arrive quand on ne fait pas la volonté de Dieu. Le secret était de voler à la face du soleil, ferme donnée aux autres. C'est vraiment remarquable. Vous avez déjà vu le film sur David au cinéma, là? C'était connu à travers le monde. 2000 ans après, on parle de David et son péché avec Bathsheba. Ce que tu fais en secret des fois, tu vas le dévoiler puis il soit connu au soleil et à la face du soleil. Donc, il faut faire attention à ce que nous faisons des fois. Ce sera dévoilé et on va subir les conséquences. Suite, l'épée ne s'éloignera jamais de sa maison. Quand Nathan est allé vers David pour l'accuser de ce péché avec Bathsheba, il connaît l'histoire d'un homme riche qui avait beaucoup de bébés, puis même les bœufs, puis il est de son aise. Puis lui a pris la bébé, une seule bébé qu'un homme pauvre avait. L'homme pauvre, il avait une seule bébé, il le nourrissait comme un enfant. Et le riche a pris le bébé du pauvre pour l'inviter. Mais David a éclaté, dit, il devrait payer 4 pour 1. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? De se juger lui-même. 4 de ses enfants sont morts parce qu'il a pris la femme d'un autre et l'enfant est mort. Absalom a tué Amon, son frère. Absalom a été tué par Joab et Adonijah a été exécuté par Salomon. Il a payé 4 pour 1. C'est grave, hein, de pécher contre Dieu. Ça, c'est des conséquences qui en découlent des fois. Princesse se met de côté, tôt ou tard, lentement, sûrement, fermement, on doit payer pour ce qu'on a semé. On récolte ce qu'on a semé. On parle de Jacob. Qu'est-ce que c'est que Jacob a fait? Ben, il a volé le droit d'aînesse de son frère. Il s'est déguisé, il a mis de fourrure sur ses épaules, puis il se passe pour Ésaü. Donc, Ésaü avait la promesse de l'aîné, mais il voulait l'avoir. Donc, il triche, il ment à son père, il dit, je suis Ésaü, je suis la promesse qui est à lui. Mais Jacob a fait ça. Mais des années plus tard, quand il est allé chercher une femme, il est allé vers son beau-père dans une autre place. Il cherchait cette fille qui aimait beaucoup, Rachel. Donc, il travaille 7 ans dur pour les bancs. Ensuite, quand mon mari arrive pour le mariage, il s'en va pour enlever le voile. Oh, c'est pas elle. C'est sa sœur. C'est Léa. Il dit, tu m'as triché. Tu m'as menti. Est-ce qu'il n'a pas pensé à ce qu'il a fait à son père? Je pense que oui. Hein? Ce que j'ai fait dans les... Et ça me revient. Dieu dit vrai. Hein? Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Il l'a eu. En passant, Rachel avait des dieux païens, des idoles cachées, puis elle a pris ça avec elle. Elle n'était pas une femme spirituelle. Donc, voilà. Maintenant, appendices. L'essai importante, la tute de David par la suite, c'était pas habituel pour David de faire ce qu'il a fait. C'est pas habituel pour moi de faire comme David, de pécher à l'occasion. Mais comme on le dit ce matin, nous sommes encore dans la chair. Nous sommes encore dans le péché. Nés avec ce caractère qui n'est pas correct. On devrait vivre selon l'Esprit de Dieu et selon la nouvelle naissance, pas selon la vieille nature qu'on a héritée de Adam. Mais David, ici, n'est pas abandonné par Dieu. Châtié, mais restauré. Le processus, quoi faire? Repentance, sincère et honnête. Il a pleuré beaucoup, David. Il a imploré le Seigneur. Il a prié. Mais pas comme Jimmy Swaggart. Rappelez-vous de lui, Swaggart et Baker, là, l'histoire américaine. Devant un auditoire, un grand auditoire, devant sa famille, il pleure puis il confesse son péché d'avoir visité une prostituée. Il pleure puis les larmes de crocodile. Parce que il était pris tôt après encore avec une prostituée encore. Pas l'idée qu'il a couché avec, mais il était pris avec 2 prostituées. Homme de Dieu, qui parle de la vérité, qui prêche la parole de Dieu. Terrible, hein? Mais David était vraiment sincère et a changé d'idée. Ensuite, remission. Péché pardonné, mais il porte la peine des conséquences. Inévitable. Restauration, mais jamais comme auparavant. Il va faire quelque chose pour le Seigneur encore dans sa vie, mais ça n'a jamais été comme ça était. Donc, attention, on perd toujours quelque chose. Regarde ici. Il faut consentir au châtiment d'un mauvais choix et persévérer avec courage. Il faut accepter la discipline de Dieu dans la vie. Si vous n'avez jamais péché, vous n'avez pas de problème. Mais si vous êtes comme moi, j'ai des problèmes. Ouais. Mais des fois, il faut dire, j'ai fait une erreur, c'est faux, pas correct. Il faut pleurer, demander pardon et accepter le châtiment de Dieu, mais de continuer. David a toujours le désir d'être utile pour Dieu. Regarde, encore sur le trône, mais avec beaucoup de peine et difficulté, mais quand même bien dirigé le peuple de Dieu. Préparatif pour bâtir le temple. C'est David qui avait l'idée de bâtir un temple à la gloire du Seigneur. Pas un tabernacle, mais une bâtisse. C'est David qui avait ce désir. Il ne pouvait pas, c'est un homme de sang. Mais son fils Salomon l'a fait. Mais il a ramassé beaucoup de matériel. Il a préparé, il a travaillé fort. Il a fait de quoi? Et il ne faut pas s'écraser sur la calamité, mais continuer avec persévérance. Ça, c'est la parole de Dieu. J'accepte la discipline de Dieu. Je suis pardonné. Maintenant, je vais faire ce que je peux. J'ai connu un homme qui était vraiment doué pour enseigner la parole de Dieu. Mais lui, il n'avait pas un caractère, il n'avait pas vraiment un bon témoignage. Il n'était pas capable de porter la parole en public ou enseigner la parole de Dieu. Mais il était capable, avec ses mains, de construire les affaires. Il était habile, donc il est allé faire ces choses comme ça. Mais c'est bien ça. Il n'a pas arrêté de faire quelque chose pour lui. Conseil. Il ne faut pas jeter la serviette ou se décourager à outrance. Tactique de Satan. Plus bon rien. T'as péché? Ferme-la. Va dans ta chambre, ferme la porte, c'est fini ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Satan. Il nous décourage avec ça. Faut accepter de bon gré la discipline, faire ce qui est possible avec bon cœur. Il y a un dicton, contre mauvaise fortune, bon cœur. Il faut racheter l'avenir, pas pleurer sur le passé. Il y en a qui vont, oh, j'ai péché, ils vont pleurer, ils vont se lamenter, ils vont se décourager, ils vont s'asseoir, rien faire, pas ça. Faut se pardonner. Des fois, Dieu nous a pardonné. Faut se pardonner nous-mêmes, des fois, en tendance de, oh, ça pèse sur mes épaules. Mais on est pardonné. Et tourner la page. Jimmy Baker. Ça, toute une histoire, mais dans les années 1980, il a commis l'adultère, il a commis la fraude, c'était tout. Il a botté les affaires, il a dépensé l'argent dans cet héritage USA. Là. Mais il est passé 5 ans en prison. Quand il est sorti, j'ai lu un peu après, j'étais intéressé de savoir qu'est-ce qu'il ferait. Il s'est marié, il s'est remarié, sa femme l'a divorcé, et il s'est remarié, puis il a mené une vie assez bien. Il voulait encore faire quelque chose pour le Seigneur, sa peine a été purgée, donc il a commencé de faire quelque chose pour le Seigneur, mais pas comme auparavant. Il a essayé la télévision, mais ça n'a pas marché trop bien. Bon. On va terminer avec rétrospection sur le roi Salomon. Ce grand roi, ce roi était remarquable, était très doué, très intelligent, très sage, très riche. Il n'a jamais, il y aurait jamais un autre roi comme lui sur toute la terre, la Bible dit. C'est un grand, grand roi, mais il y avait une fin tragique. Dans Ecclésiaste, vous avez ça. Donc, quand il a commencé, troisièmement, caractère, début, sincère et intègre. Dans Deutéronome, il demande au Seigneur quoi? La sagesse puis l'intelligence pour gouverner son peuple. Dieu lui donne ça. Mais en plus, parce qu'il n'a pas demandé la gloire, l'honneur ou la richesse, Dieu lui en donne. Un homme riche, un homme puissant, un homme très intelligent et remarquable. Maintenant, il aime Dieu, sa loi, demande la capacité de gouverner. Donc, il avait un peu plus de 20 ans quand il a fait sa prière au Seigneur, au début de sa vie. Parle de cette capacité. Rappelez-vous de cette histoire de deux femmes. Ils avaient chacun un enfant, puis ils étaient dans le même lit, puis un enfant était écrasé, mort. Puis les deux femmes réclament l'enfant comme le leur. En tout cas, devant Salomon, il a dit, prends l'enfant, on va le couper en deux. Une femme dit, non, fais pas ça. Il dit, l'autre femme, correct ça. Il dit, donne l'enfant à cette femme qui a crié. Rappelez-vous, cette femme, intelligent, hein? Excellent. Mais il a commencé comme ça. Mais quand il a fini, sagesse et intelligence accordée, plus riche et gloire, renommée superbe, unique, au sens naturel. Rappelez-vous qu'Ecclésiaste ne parle pas des révélations de Dieu, ça parle de la connaissance d'un homme sur la terre, d'un Dieu qui est au ciel. Il ne faut pas citer Ecclésiaste pour dire que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Des passages là-dedans qui sont pas vraiment bien. Mais le reine de Séba est allé voir cet homme, cet roi tellement grand, tellement riche, tellement glorieux. Et quand elle est arrivée, elle a tout vu, puis elle a dit, la moitié n'a pas été dit à son sujet. Mais vous savez, relis ça à Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est pour nous? Un sauveur merveilleux, formidable, sublime. Mais je pense que quand on va le voir face à face, on va dire le même. La moitié n'a pas été dit à son sujet. Hein? N'est-ce pas vrai? En tout cas, voilà seulement. Le choix n'a pas duré. Opter pour la sagesse et la science du monde. Je pense que c'est devenu son Dieu. Vraiment, il a dit dans Ecclésiaste, au début, Il a tout essayé sur le ciel, pour dire, et il a parlé dans la connaissance, et c'était vraiment, il s'est acquis beaucoup de connaissances en Ecclésiaste. Il a parlé de ça, et au début, on a parlé, il a dit, toute est vanité et poursuite de vain. Toute son intelligence, son sagesse, il a regardé le monde et tout ce qui est sur la terre, c'est vanité. Ça ne dure pas. Il avait raison. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin d'Ecclésiaste? Je le lis pour vous. Dernier chapitre, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car là, ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ce qui est dit là, par exemple, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est parlé de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il est parlé de la miséricorde de Dieu? Est-ce qu'il est parlé de la bonté de Dieu? Est-ce qu'il est parlé de la grâce de Dieu? Pas un mot. Pour un homme qui a vécu sur la terre, qui était doué avec cette intelligence et cette sagesse humaine, il n'a pas saisi le principal que Dieu nous aime et prêt de nous pardonner nos péchés, nos fautes, nos manquements, si on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Hein? Dieu va te juger pour tes affaires sur la terre. C'est bien, mais Ésaïe, Jérémie, tous les prophètes parlent de cet amour de Dieu dans ton cœur, amour qui est vraiment presque indescriptible. Dieu nous a tant aimés. Ça, c'est pas l'amour humain, non, c'est l'amour de Dieu, créateur, pour ses créatures, les êtres humains. Et les hommes pour les hommes, on peut mourir pour un autre, c'est bien, c'est vraiment formidable. Mais quand Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, est mort pour nous, a pris nos péchés sur son corps sur le bois, ça c'est indescriptible. C'est impossible d'écrire la hauteur, la largeur, le centre, la profondeur de tout ça. Impossible le mot de Dieu. Mais lui, il ne dit pas un mot. Je ne sais pas si c'est au ciel ou non. Je pense que non, entre nous. Mais il a dû parler de l'amour de Dieu, le pardon de nos péchés et les choses qui sont en nous à cause de Jésus-Christ. Bien, premier moyen, les choix. Il suit le chemin large du monde. Et dans Deutéronome, on a des choses défendues pour le roi. La passion naturelle du cœur, attention. Mais non, c'est arrivé avec lui, ça peut arriver avec moi aussi, des choses. Qu'est-ce que c'est que c'était défendu pour le roi? Donc, multiplier l'argent et l'or. Possession matérielle, ça veut dire indépendance. Je suis riche, je suis à mon aise, comme le cultivateur dans Luc, là, qui avait des granges, puis il était plein, puis donc il est bâti pour en bâtir plus gros, pour ramasser sa récolte. Au lieu de penser de partager ça avec les autres, d'aider les autres, il ramasse pour lui-même. Puis la nuit même, qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort. Terrible. Donc, l'argent, la richesse. Il y en a qui vivent pour la richesse. Ils cherchent un bon salaire, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, tout ça. C'est bien, mais quand ça domine dans notre vie, c'est pas correct. Deuxième chose, multiplier les chevaux. Ça, c'est la puissance militaire. Pas besoin de Dieu. Salomon avait partout dans son domaine les cavaliers et l'armée est formidable. Donc, il n'a pas besoin de Dieu, il est capable de se défendre lui-même. Une tendance d'être indépendant de Dieu, pas possible. Ensuite, multiplier les femmes. Plaisir charnel, j'en ai parlé déjà. Comme j'ai dit, c'est assez difficile des fois de vivre avec 1000 femmes. Maintenant, c'est une politique. Donc, Néhémie, on lit au sujet de Salomon, comment est-ce que ça a fini avec lui. C'est Néhémie qui dit dans chapitre 13, il dit ceci, Il dit, je coupe un peu pour ne pas être trop long. Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé, descendu. Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères rentrèrent aussi dans le péché. Néhémie, chapitre 13. Il a fait des choses. Les trois choses étaient demandées pour un roi de faire et d'être un modèle pour le tout pauvre. Pour la nation, mais il fait les trois choses, et il est mort avec une certaine connaissance, une grande connaissance, une sagesse humaine, mais il marque pas à la fin de sa vie qu'il était vraiment celui qui a aimé et compris qu'il était un pécheur, puis il avait besoin de se repentir de ses péchés devant Dieu. Il a fait tout ça, seulement. Conséquence, le peuple révolté, c'était trop dur, les taxes qu'il a mis sur le peuple. Dieu est oublié, ses femmes l'amènent dans l'idolâtrie. Il est allé avec ses femmes dans les temples dorés des idoles. La marée de désobéissance, vive pour le présent, pour le sagesse humaine, c'est pas bien. Donc, conséquence, le royaume après a été divisé en dissolution. Sans avoir gardé la foi, il n'a pas poursuivi la parole de Dieu. Il a fait sa volonté. 20 styles de vie, caractère mauvais. Folle et pure, ignorer la sagesse divine. On ne devrait pas faire ça. Mieux d'être considéré comme un fou aux yeux du monde et de suivre la sagesse de Dieu et de savoir que nous sommes dans la vérité. Ces choses ne satisfont pas. Les derniers mots, ni logique, ni réponse aux questions aiguës. Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que c'est qui arrive après la mort? Est-ce que je suis avec Dieu ou hors de la présence de Dieu? Il n'y a pas répondu à ces questions-là. Donc, Vatian, quant à la foi, n'a pas continué dans la bonne voie, a glissé dans le néant. Avec tentation et le temps, seulement succombe. Cœur partagé. Je suggère ça, peut-être j'ai pas raison, mais il me semble qu'il a mal fini. Qu'est-ce que c'est qui compte? Le début ou la fin? C'est la fin, oui. De suivre bien. Attention, souvent le corps ne persévère pas. Le salut dans la parole de Dieu, c'est la foi et quoi? La persévérance. Si jamais l'idée, je suis sauvé, tout est fini. Je crois. Ensuite, Dieu va changer mon caractère, il me donne la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu. Maintenant, je dois persévérer dans cette foi, cultiver la foi, grandir dans la foi et devenir autant que possible comme Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne le serai jamais. Mais quoi? Je dois essayer. Je dois lutter. Je dois chercher de vivre pour lui et pour sa gloire. On parle de cette idée de caractère. J'ai découpé un petit bout de papier que j'ai trouvé dans un magazine. Dans la Californie, dans l'année 2006, devant un gros baptiste en Californie, un gros baptiste, un meuble là, vraiment bien, il y a un homme qui passe dans la rue. C'est un sans-abri. Il passe cherche dans les poubelles pour trouver de quoi. Et tout d'un coup, il trouve un portefeuille. Il ouvre le portefeuille. $900. Ah! Je suis arrivé. Non. Il prend le portefeuille. Il voit un homme qui sort de cet immeuble-là. Il dit, voici quelqu'un a mal jeté un portefeuille. Il y a de l'argent là-dedans. Peux-tu le trouver et puis retourner l'argent? Ouais, ils l'ont trouvé, puis lui a reçu $100 comme récompense. Mais si vous, moi j'ai trouvé $200, j'étais pauvre, vraiment, au bout de la vie, je serais parti avec. Non? L'homme naturel, oui. Mais cet homme avait du caractère, n'est-ce pas? Il était juste, il était honnête. Même quand il avait l'occasion d'arriver bien dans la vie avec $200, il, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne l'argent à celui qu'il a perdu. C'est formidable. C'est simple, hein? Mais c'est un homme qui avait quoi? Du caractère. C'est ça qu'il nous faut dans ce message ici. Maintenant, on va, la sagesse du monde, voie de la perdition, séduction et mensonge. Ça, c'est un mirage. Bien. C'est la fin de la course qui compte, pas le début. Alors, moi, j'arrive, là. Deux pieds dans le tombeau. Oh, les marches, là, tout c'est formidable. C'est une montagne pour moi. En tout cas, avec l'aide du Seigneur. Mais, c'est de ne pas laisser tomber, d'aller continuer, de persévérer, aller jusqu'au bout. C'est de bien finir. Vous n'avez pas entendu de Charles Templeton, peut-être quelques-uns. C'est un évangéliste aux États-Unis qui était dans l'époque de Billy Graham. Et lui était dans l'année 1946, était considéré plus grand que Billy Graham. Billy Graham, dans les années après, l'a dépassé. Mais c'est un homme intelligent, très doué, très capable, avec la parole de Dieu. Donc, il a continué de servir, a fait plusieurs choses, mais finalement, il est allé à Princeton, l'université Princeton aux États-Unis. C'est pas évangélique, ça. Puis il a fait des études. Puis là, il est devenu un athée. Il a rejeté la parole de Dieu. Toutes ces années, il a prêché avec faveur, avec puissance, la parole de Dieu. Ensuite, il a lu d'autres auteurs, puis il commence à douter, puis à Princeton, il est devenu athée. Mais quand il a fini, il a écrit un morceau de papier, « Farewell to God ».« Bonjour Dieu ». Il a dit, je crois plus en Dieu, Jésus-Christ et tout ça. Mais quand il a publié ça, il a dit à un autre ami qui était un évangélique, il dit, j'ai écrit ça, je suis naté, mais il me manque Jésus. Il est mort comme ça. Athée m'a dit, il me manque Jésus. Il avait raison de dire ça. Terrible, hein? Mais c'est ça quand on ne fait pas, on ne cherche pas à faire la volonté de Dieu. Farewell to God. Bien, j'espère que j'ai commandé un cantique ce matin. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Vous voulez l'avoir, mais peut-être, je sais pas si ça existe encore, là, vous l'avez. Et si on pourrait le chanter. Vous avez des bons choix à faire dans la vie pour avoir des bonnes conséquences et d'avoir un bon caractère. Avez-vous capté ça? Si vous avez tout oublié, ça c'est important. Les trois C, là, vous l'avez maintenant et vous en êtes responsable. Hein? Vous avez, même les personnes âgées, on a besoin de saisir ça puis chercher de vivre ça pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide de faire comme le cantique ici existe. Est-ce que nous pouvons chanter ça pour terminer? C'est sur l'écran. On va demander aux musiciens de venir nous aider. Et on doit le chanter avec l'idée de donner notre cœur à Jésus-Christ et marcher avec lui.
Allez, on va y aller à la capelle là. Hein, on est déjà tout le monde debout, s'il vous plaît. Pour vous donner un ordre. On la connaît tous, de toute façon. Il y a deux couplets, c'est qu'on va y aller avec les deux couplets qu'ils en chantent. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ.
En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours.
On va terminer avec un mot de prière. Restez debout pour un instant. Maintenant, c'est un grand plaisir de vous visiter encore et vous apporter les trois C. Premier C. Deuxième. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous sommes vraiment contents d'être dans ta présence ce matin et d'apprendre ces trois C pour nous aider à vivre pour toi et pour ta gloire. Aide-nous de faire des bons choix dans la vie maintenant. De dire non au monde et la tentation et le mal qui règne et d'être un vrai disciple de Jésus-Christ. Nous te prions ces choses pour ta gloire. Amen.